Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky.
Il existe beaucoup de personnages marquants dans Elden Ring, mais peu le sont comme Radahn, le fléau des astres. Au-delà d'être un boss particulièrement retors, Radahn est devenu une icône et un point de repère pour tous ceux qui se lançaient dans l'aventure Elden Ring. En effet, en mars dernier, quand il s'agissait de comparer sa progression avec celle des collègues, c'était toujours lui qui revenait sur le tapis. Alors tu en es où? Est-ce que tu as tenté d'aller en Kaelid? Est-ce que tu as affronté Radahn? Est-ce que tu as utilisé les invocations pour l'affronter ou pas? Qu'est-ce qui a pu rendre ce personnage si iconique pour les nouveaux venus comme pour les anciens? Pour les nouveaux, sûrement la force brute du boss, l'immensité dont est capable From Software quand il s'agit de mettre en scène ses affrontements. Pour les anciens, certainement parce qu'il représente quelque chose de nouveau, d'inédit dans un jeu FromSoft. Ce festival martial, cette espèce de battle royale en somme, visant à abattre une seule cible. Et bien sûr, une mise en scène incroyable précédant le combat. De l'aveu même de Miyazaki, quand on lui demande son personnage préféré dans Elden Ring, il avoue que c'est tout l'arc narratif autour de Radahn et du festival du Lion Rouge qui lui procure le plus de choses. Et on comprend alors pourquoi, si elle a tant marqué le créateur japonais, elle a pu marquer des millions de joueurs. À mes yeux, Kaelid est assurément la région qui m'a laissé le plus de souvenirs dans Elden Ring, car je ne m'y attendais pas, je l'ai trouvée surprenante, avec une ambiance unique que, de mémoire, je n'avais jamais croisée dans un jeu From Software. Cette vidéo aura donc pour but de revenir, oui, sur Radahn, mais sans occulter l'histoire de cette région, ni les personnages qui l'entourent. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue dans l'univers passionnant de Radahn, le fléau des astres. Radahn est le fils de Rennala, reine de la pleine lune et du champion de l'ordre d'or Radagon. Il en a d'ailleurs gardé la chevelure rousse caractéristique, comme nous le rappelle son casque crinière rouge. Je suis né lionceau, fils d'un champion, et aujourd'hui, je suis le lion du maître du champ de bataille. A ce titre, il est donc le frère du prêteur Rhaegard et de la princesse lunaire Rani. Ce n'est qu'après l'union de Radagon avec Marika que ses trois enfants seront considérés comme des demi-dieux. Radahn est né à une époque où l'Ordre d'Or était à son apogée, remportant combat sur combat en Entre-Terre, ce qui pourrait expliquer l'admiration sans faille qu'il portait à Godfrey, le premier seigneur d'Elden de Marika. Sur la description de l'armure léonine de Radahn, on lit que le lion doré représente Godfrey, premier seigneur d'Elden, et sa bête régente Serosh. Dès son plus jeune âge, Radahn éprouva donc une fascination naturelle pour le maître du champ de bataille. Cette fascination perdurera, semble-t-il, toute sa vie, même après la destitution de Godfrey, puisque Radahn ornera ses futurs chevaliers d'une armure portant le même blason, symbole d'un enfant fidèle qui admire ses héros et vénère avant tout la puissance du champ de bataille. Au cours de ses jeunes années, Radahn fut formé à une forme de magie toute particulière, la magie gravitationnelle. L'académie de Raya Lucaria, déjà passée maître dans la magie des pierres d'éclat, la magie d'Ecaria ou encore les sorts cristallins, cherchait certainement à étendre son savoir, et c'est sûrement dans cette optique qu'ils décidèrent de former le jeune Radahn à cette nouvelle forme de sorcellerie. Mais revenons d'abord quelques instants sur comment cette magie gravitationnelle a-t-elle fait ses premiers pas en Entre-Terre. Parmi toutes les créatures qui peuplent l'Entre-Terre, certaines nous viennent des confins de l'univers, et on pourrait aller jusqu'à supposer que les divinités extérieures qui influent sur le destin de cet univers viendraient du cosmos. Le sort Étoile d'Elden nous explique d'ailleurs que la Volonté Suprême aurait fait s'abattre une étoile dorée, porteuse de la Bête d'Elden. On peut alors imaginer que ces actions n'auraient pas été sans conséquences et qu'elles auraient ouvert des brèches entre ce monde et le cosmos qui auraient permis à une multitude d'autres créatures de venir se poser en Entre-Terre et d'amener avec elles une forme de magie encore inconnue jusque-là, la magie gravitationnelle. Parmi elles, on peut bien sûr évoquer les rejetons du vide et le plus connu d'entre eux, Astel, qui d'après le sort météorite d'Astel, aurait rasé la ville éternelle de Nokron. C'est en partie pour cette raison que les Nokriens sont aujourd'hui en si petit nombre, reclus sous terre dans leurs villes éternelles, attendant celui ou celle qui viendra les libérer et rétablir l'âge des étoiles. Parmi toutes les créatures venues du cosmos avec les rejetons du vide et les chutes de météorites, on peut également citer les créatures stellaires, des êtres de pierre mi-taureaux mi-scorpions extrêmement puissantes. Ces chutes de météorites sont d'ailleurs le moyen pour les habitants de l'Entre-Terre d'étudier la magie gravitationnelle et d'exploiter ses creusets. On y trouve d'ailleurs souvent des sorciers qui semblent presque leur vouer un culte et priant devant ces créatures. Enfin, dernier peuple du cosmos à s'être invité en Entre-Terre, les fameux Seigneurs d'Albâtre, encore appelés Seigneurs d'Onyx, des humanoïdes de pierre à la silhouette fine et élancée, maniant l'espadon. La description de l'espadon de Seigneurs d'Albâtre nous explique qu'il s'agit d'êtres antiques à la peau de pierre qui seraient apparus peu après la chute d'une météorite. Des êtres qui inspiraient avant tout la crainte, comme on peut le lire sur le sort météorite, une technique provenant des seigneurs d'Onyx à la peau de pierre, ainsi nommée en raison de la crainte qu'inspirait leur puissance destructrice. Ce sont ces seigneurs d'Onyx qui ont appris aux premiers sorciers à manier la magie gravitationnelle, et c'est l'un de ces seigneurs qui a été recruté par l'académie de Raya Lucaria pour apprendre les prémices de la magie gravitationnelle à Radahn. C'est probablement à cette époque que fut créé le sort puits gravitationnel, une technique qu'étudia le jeune Radahn, alors disciple d'un seigneur d'Albâtre à la peau de pierre. Vous croiserez d'ailleurs ce seigneur lors de votre premier passage à l'académie. Afin de poursuivre son enseignement et de suivre sa propre voie, Radahn finira par quitter l'académie de Raya Lucaria pour se rendre en Caelid, et plus précisément dans la cité de la sorcellerie de Celia, qui est justement spécialisée dans l'étude de la magie gravitationnelle. Fort de ses enseignements, Radahn acquit de plus en plus de puissance, ce qui lui permit notamment de se lier éternellement à son fidèle destrier Léonard, d'après moi pour tenter de ressembler à son modèle Godfrey, qui était lui lié à la bête régente Séroche. On peut lire sur le souvenir du fléau des astres, le lion rouge usé de pouvoir gravitationnel a pris dans sa jeunesse à Celia pour ne jamais être contraint à abandonner son très cher mais rachitique destrier. On comprend alors que ce sont des pouvoirs gravitationnels qui lient Léonard à Radahn, l'empêchant de tomber de sa monture. Mais au-delà de ça, Radahn n'oubliera jamais ses origines et à qui il devait ses enseignements. Comme je le disais un peu plus tôt, il est quelqu'un de fidèle et c'est cette fidélité sans faille qui guidera ses actes. sur le sort effondrement stellaire, on peut lire la phrase suivante prononcée par le demi-dieu. « Je vous remercie pour vos enseignements, car ils m'ont permis de défier les étoiles. » Car oui, fort de son pouvoir, Radahn va décider de défier les étoiles. D'après la description de l'héritage du fléau des astres, le plus puissant des héros des demi-dieux affronta les étoiles filantes en combat singulier. Il les anéantit et sa victoire scella le destin même du firmament. On peut imaginer qu'à la même période, le jeune Radahn choisit d'inscrire la gravité comme motif sur ses espadons. Intéressant alors de noter le nom de la compétence unique associée à cet espadon, le cri mand d'étoiles. Le terme mand est une notion qui revient souvent dans la mythologie d'Elden Ring. On pourrait le traduire par « qui appelle à ». Ainsi, on retrouve le mand d'esprit, celui qui appelle aux esprits, personnage notamment derrière les cendres d'invocation et potentiel premier propriétaire de Torrent. On retrouve également la notion de mand de spectre, celui qui appelle au spectre, et enfin Radahn, le mand d'étoiles, celui qui en appelle aux astres. Mais pourquoi Radahn a-t-il choisi de stopper le mouvement des étoiles? Pourquoi a-t-il choisi de sceller le destin de sa propre famille, les Caria, de sa mère Rhenala et de sa sœur, la princesse Rani? Les actes de Radahn ayant permis de stopper les chutes de météorites, on pourrait y voir une fidélité sans faille à l'Ordre d'Or. Mais Radahn n'est pas du genre à prendre parti pour l'Ordre d'Or. Il n'est pas non plus du genre à s'opposer à sa famille gratuitement. Non, selon moi, ce qui a motivé Radahn, c'est son amour pour la cité de Celia et sa fidélité envers ceux qui lui ont tout appris. À mes yeux, cet attachement seul justifie les actes de Radahn, et cela est confirmé par un des cimetières d'épées que l'on trouve en Kaelid. On y lit « Le conflit du fléau des astres. Radahn, seul, préserve Celia, et s'élève pour anéantir le firmament. » Quelle meilleure image que celle d'un être qui utilise sa toute-puissance pour protéger ceux qui l'ont élevé, qui lui ont tout appris et préserver une cité alors menacée par les chutes de météorites. Si la vidéo te plaît et que tu veux éviter qu'une météorite lâchée par Radahn ne tombe sur ta maison ou ton appartement, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage. Après ces événements, Radahn représente la plus puissante force présente en Kaelid, et la région lui appartient pour ainsi dire. Il forme autour de lui la caste des Chevaliers du Lion Rouge, des soldats qui jouissaient tous d'une réputation d'excellents guerriers, et il se racontait que les Lions Rouges ne présentaient aucune faiblesse. Parmi eux se trouve Oga, le plus ancien vétéran des Chevaliers du Lion Rouge. Oga étudia auprès de Radahn des techniques permettant de manipuler la gravité, et tout ce beau monde est réuni sous une seule bannière et un seul bastion, le château du Lion Rouge, une immense forteresse protégée par un viaduc supposément infranchissable. C'est à cette période que Radahn est rejoint par un personnage mystérieux et haut en couleur du nom de Jiren, qui va devenir son commandant et châtelain. Qui est exactement Jiren et quels sont ses véritables objectifs, nous y reviendrons un peu plus loin. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes furent liés par un serment. Jamais l'un ne devait permettre que l'autre meure dans le déshonneur. Tout allait donc pour le mieux pour Radahn et son armée, jusqu'au jour où survint un événement connu de tous sous le nom de l'éclatement. L'éclatement fut le théâtre de glorieux affrontements, d'une chasse sanglante aux runes majeures et au titre de seigneur d'Elden. En sa qualité de féroce combattant, Radahn a évidemment participé à cette lutte fratricide. Il croisa notamment le fer avec Morgoth, combat dont il sortit manifestement vaincu, comme en témoigne ce plan de la cinématique d'introduction. Mais la bataille la plus féroce ayant eu lieu pendant l'éclatement reste l'affrontement dantesque entre Radahn et Malenia, qui prit le nom de bataille d'Ivoine, du nom des papillons d'Ivoine qui composent le corps putréfié de Malenia lors de sa floraison. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de signification au terme Ivoine en français. Je me suis donc intéressé à la version anglaise dans laquelle le terme utilisé est Aeonian, qui serait issu du langage Cherokee, peuple d'Amérique du Nord, et qui signifierait ce qui est éternel ou infini. Lors de ce combat se produisit une floraison de Malenia. Les avis divergent quant à savoir s'il s'agit de la première floraison ou la deuxième, mais ce qui est sûr, c'est que cette floraison donna naissance à plusieurs progénitures, des rejetons de Malenia, dont fait partie Millicent, et qui seront récupérés par Gowri, que l'on sait maintenant être un avatar de la putréfaction écarlate, cherchant une éventuelle successeur à Malenia. À l'issue de ce combat qui n'eut pas de vainqueur, Malenia, qui n'était plus capable de se déplacer, fut récupérée par Finlay, l'une de ses plus fidèles chevalières, qui la ramena sur son dos jusqu'à l'arbre sacré. Certains chevaliers de la putréfaction restèrent sur place, on en croise d'ailleurs quelques-uns dans le marais d'Ivoine, notamment à proximité du commandant Nial, qui détient l'aiguille d'or de Mikaela, sûrement récupérée à l'issue du combat. Radahn, quant à lui, ressort extrêmement affaibli de cet affrontement, sa rune majeure ayant été fortement altérée par la putréfaction de Malenia, et il n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme sa région, la Kaelide, qui est dorénavant entièrement recouverte de putréfaction. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dragons furent obligés de migrer vers le nord pour y rester, donnant à cette région le nom de Tertre Draconique, un endroit où nul n'ose s'aventurer.
Champions, welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you!
C'est à cet instant de notre histoire que le personnage de Jaehren reprend toute son importance. Respectant la promesse faite à Radahn de lui offrir une mort honorable, Jaehren va organiser un festival martial au château du Lion Rouge, qui aura pour objectif de trouver un ou des combattants suffisamment puissants pour venir à bout d'un Radahn affaibli. C'est à vous, sans éclat, que reviendra cette tâche, et une fois le combat terminé, des personnages bien connus comme Blade le Semi-Loup ou Alexander le Guerrier Vivejar viendront vous féliciter. Mais c'est l'attitude de Jaehren qui est intéressante. En effet, celui-ci estime que sa mission est terminée, et il va donc quitter le château.
Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion.
Car oui, Jaehren est à la base un sorcier émérite de l'académie de Raya Lucaria. On peut donc légitimement se demander à qui va sa véritable allégeance. S'est-il lié à Radahn de bonté de cœur, ou avait-il d'autres objectifs derrière la tête ? Comme par exemple celui de permettre aux étoiles de reprendre leur mouvement et de dévoiler la cité éternelle de Nokron, ce qui permettrait de libérer le destin de sa véritable maîtresse, la famille Caria. En tout cas, pour le conseiller de guerre Iji, aucun doute, Jaehren avait bien en tête depuis le début de libérer les étoiles lorsqu'il s'est allié à Radahn.
Now the festival is over, and General Radahn is defeated. Jaehren's duties are finally fulfilled. Though we served different masters, I could see he was truly adept in his role. Now the time has come to remind him of an old promise made. With the stars of fate set into motion, a certain sorceress is dispossessed of her immortality. Finally, we can be rid of a long-standing Carian weed.
Maintenant que ce dernier a bien accompli sa première mission, il peut en reprendre une autre que lui avait confiée Iji il y a fort longtemps, éliminer une ancienne sorcière hérétique de l'académie du nom de Selene. À la fin de la quête de Selene, vous aurez d'ailleurs le choix, soutenir la sorcière dans son combat contre Jaehren ou aider ce dernier à venir à bout de Selene. Quels que soient vos choix à la fin de ce récit, le principal est déjà accompli. Vous avez offert à Radahn le fléau des astres, la mort qu'il désirait et méritait, et vous avez permis aux étoiles de reprendre le cours de leur mouvement. Pour le demi-dieu surpuissant qu'il était, Radahn ne pouvait espérer mieux. une mort dans l'honneur à l'image des combattants et héros de son enfance qu'il admirait tant et à qui il voulait tant ressembler. Un récit à la hauteur de son personnage et qui restera, à coup sûr, dans nos mémoires. Un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez soutenir mon activité, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur la cagnotte Utip de la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao.